21h à Conakry, 22h à Yaoundé. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Lutte contre le virus Ebola. La Guinée intensifie ses efforts à la frontière avec la Sierra Leone, tandis que certains Guinéens doutent toujours de la réalité de l'épidémie.
Je suis sûre qu'il y a Ebola en Guinée, mais les gens n'ont pas sûr de ça, hein, qu'il y a Ebola en Guinée. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il n'y a pas Ebola en Guinée.
Reportage de Karim Camara à suivre. Indice de gouvernance 2014 Mo Ibrahim, quels sont les mauvais élèves cette année? Enfin, nous verrons la situation des réfugiés au Cameroun qui reste préoccupante. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Aux États-Unis, la directrice du Secret Service, la police d'élite chargée de protéger le président américain, a démissionné aujourd'hui à la suite de multiples scandales au sein de ce corps. C'est le ministre de la Sécurité intérieure, Jay Johnson, qui l'a annoncé dans un communiqué en saluant les 30 années de Mme Pearson au service de cette police d'élite. Il a nommé un directeur par intérim, Joseph Clancy, retraité du Secret Service en 2011. Julia Pearson avait reconnu mardi des failles inacceptable dans son service, chargé de protéger le président et sa famille. Le tout dernier incident est l'intrusion à la Maison-Blanche le 19 septembre d'un homme qui avait escaladé la clôture, traversé le jardin et franchi l'entrée principale avant d'être arrêté. Et premier cas d'Ebola aux États-Unis, le patient est hospitalisé au Texas, dans le sud-ouest, où le gouverneur Rick Perry a confirmé aujourd'hui qu'il a eu des contacts avec des enfants d'âge scolaire. Les autorités essaient de déterminer qui d'autre peut avoir été en contact avec cet homme revenu du Liberia. Un proche de ce patient atteint d'Ebola au Texas pourrait être lui aussi infecté. C'est ce qu'a dit le directeur des services de santé de Dallas. A noter également que le virus Ebola a fait 42 morts en République démocratique du Congo, selon le dernier bilan du ministre de la Santé. Toujours en République démocratique du Congo, le procès des meurtriers présumés de Mamadou Ndala s'est ouvert aujourd'hui à Beni, dans l'est du pays. Tué en janvier, le colonel congolais était à l'origine de nombreuses victoires contre la rébellion du M23. Parmi les principaux accusés figure le lieutenant-colonel Tito Bizourou, ancien commandant de la place militaire de Beni.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les milices kurdes continuent de défendre la ville de Kobané, près de la frontière turque, contre les attaques de l'État islamique. Elles sont soutenues par les frappes aériennes de la coalition dirigée par les États-Unis. Trois bombardements ce mercredi ont détruit un char, des pièces d'artillerie et un véhicule blindé des djihadistes. Plus de 160 000 personnes ont fui leur maison à cause de ces affrontements. À Hong Kong, au sixième jour des manifestations, les protestataires sont restés fortement mobilisés en ce jour de fête nationale. Chinoise. Ils sont restés sourds aux appels répétés des autorités, leur demandant de stopper les manifestations qui pourraient commencer à avoir des répercussions sur l'économie. Claire Morin-Gibou.
La révolution des parapluies commence à peser sur l'économie locale, mais c'est surtout le statut de place financière de Hong Kong qui pourrait vaciller si la situation persiste. Les conséquences économiques sont déjà palpables avec la fermeture des banques, la perturbation des transports et les annulations de voyages d'affaires. Gareth Leather, du Centre de recherche Capital Economics, a confié à l'AFP que si les manifestations s'éternisaient, le tourisme et le commerce, qui représentent 10% du produit intérieur brut du territoire, seraient fortement touchés et Hong Kong pourrait alors sombrer en récession. Mais ce sont surtout les conséquences financières d'une éventuelle aggravation de la crise qui inquiètent. Des centaines de milliards de dollars transitent chaque jour sur les marchés des matières premières et à la bourse de Hong Kong, considérée comme la troisième place la plus efficace du monde après celle de New York et Londres.
Du sport et donc du football pour terminer avec les résultats de la Ligue européenne des champions ce soir. Zenit Saint-Pétersbourg et AS Monaco se sont neutralisés. 0-0. Malmo a disposé de l'Olympique à cause de 2-0. Atlético Madrid a vaincu la Juventus 1-0. FC Bâle est venu à bout de Liverpool 1-0. Ludo Goretz a été battu sur son terrain par le Real Madrid 2-1. Le Bayer Leverkusen a pris le meilleur sur Benfica Lisbonne 3-1. Arsenal a étrié Galatasaray 4-1. Et le Borussia Dortmund est allé donner une leçon de foot à Anderlecht 3-0. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel+. Nous ouvrons l'émission avec la lutte contre l'épidémie Ebola. À la frontière avec la Sierra Leone, les forces de sécurité guinéennes intensifient leurs efforts de dépistage du virus. Dans la région de Kindia, les autorités sanitaires sont en état d'alerte maximum. Reportage de Karim Camara pour le service anglophone de la Voix de l'Amérique, adapté par Lionel Gaïma.
Les gens qui arrivent à Medina Oula, à la frontière avec la Sierra Leone, sont soumis à des contrôles sanitaires rigoureux pour vérifier les cas de fièvre. Tous les voyageurs doivent se laver les mains avec du savon avant d'entrer en Guinée. Le comité de crise de l'Ebola à Kindia a répondu à plusieurs cas suspects d'Ebola. Un seul a été testé positif, précise le docteur Mori Togba, un responsable de la santé.
Tout récemment, on a enregistré effectivement un cas d'Ebola. Le cas d'Ebola, c'est un étudiant de médecine. L'étudiant en question s'était déplacé pour assister à une cérémonie funéraire d'un prêtre de l'église protestante Alléluia à Conakry. Donc je crois que c'est à son retour qu'il a commencé à manifester ses différents symptômes. On s'est rendu d'abord dans la famille de l'enfant malade. Là-bas, ils sont au nombre de 4. Et on a d'abord essayé de les sensibiliser parce que le comportement ne devait plus être comme avant, parce qu'il faut qu'il reste sur place au moins pendant 21 jours. Donc tous les différents contacts ont été relevés et à l'heure là, on est en train de suivre les contacts. Donc le suivi des contacts a commencé depuis le 19 et certainement ils sont à leur 10e ou 11e jour comme ça. Pour le moment, aucun n'a présenté un signe de suspicion de cas d'Ebola.
Les proches de la patiente et le personnel médical qui l'a traitée ont été mis en quarantaine. Aucun n'a présenté des symptômes de la maladie. Mais au moins 33 agents de santé sont morts sur les 110 qui avaient été infectés. Selon le docteur Abdou Kondé, le chef de l'hôpital régional de Kindia, le problème majeur était la négligence du personnel médical qui ne portait pas des gants.
En ce qui concerne le personnel de l'hôpital, il y a eu 13 contacts que nous avons pu identifier. Ils sont actuellement sous contrôle médical et ils vont être suivis pendant 21 jours.
Maintenant, à Kindia, la campagne de sensibilisation sur l'Ebola semble avoir porté des fruits. La population coopère avec les agents de santé. Il y a toutefois quelques résistances. Selon Mariama Camara, une femme d'affaires, les gens craignent que le paludisme soit confondu avec la fièvre Ebola.
Je suis sûr qu'il y a Ebola en Guinée, mais les gens n'ont pas sûr de ça, hein, qu'il y a Ebola en Guinée. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il n'y a pas Ebola en Guinée. Et tout ce qu'on dit, c'est du faux. Il ne fait que prendre les gens qui ont des palis, on l'amène à l'hôpital régional de Kindia pour les injecter, pour qu'elle meure, qu'il n'y a pas Ebola. Et c'est la politique du président.
Contrairement à certaines entreprises qui ont fermé leurs portes à cause de l'épidémie, la société minière Rusal est toujours en activité. L'entreprise russe d'exploitation de la bauxite emploie environ 10 000 personnes à Kindia.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel+ sur la Voix de l'Amérique, 99 FM à Abidjan. Seconde partie de notre dossier sur la gouvernance africaine, suite à la publication de l'indice Mo Ibrahim. Après avoir constaté les progrès de pays comme la Guinée, le Niger ou le Zimbabwe, nous nous arrêtons aujourd'hui sur les pays qui se trouvent tout en bas du classement, les mauvais élèves, ceux dont la gouvernance apparaît comme la plus mauvaise du continent. Plus de détails avec le directeur exécutif de la Fondation Mo Ibrahim, Nathalie Delapalme.
Alors les mauvais élèves en queue de peloton, si on prend les 5 derniers, si on va du plus mauvais au moins mauvais, si je puis dire, bon, enfin on reste très bas, c'est la Somalie, la République centrafricaine, l'Érythrée, le Tchad et la Guinée-Bissau. La République démocratique du Congo arrivant ensuite.
Et comment vous avez calculé cet index ?
C'est un index composite qui repose sur la consolidation de 94 indicateurs différents qui proviennent de plus d'une trentaine de sources, qui sont des sources soit provenant d'institutions multilatérales, d'institutions régionales ou d'instituts travaillant sur des domaines très précis, comme par exemple la question des réfugiés, et que nous consolidons. Nous ne créons nous-mêmes aucune donnée, aucun indice, nous consolidons ces données. En fait, ce que nous faisons, c'est une sorte de tableau de bord, dans le fond, des résultats de la gouvernance considérés comme un panier large de biens et services publics dont, dans le fond, chaque citoyen vivant au XXIe siècle est en droit d'attendre de son gouvernement.
Alors, et la Fondation Mohibrahim décerne aussi chaque année tente de décerner chaque année un prix d'excellence pour un leader africain. Va-t-on avoir un prix 2014 ?
Alors écoutez, pour l'instant, le jury ne s'est pas encore prononcé. Il n'a pas encore fait sa dernière réunion parce que cette année, pour la première fois et pour les années à venir, nous découplons la publication de l'indice qui a lieu à l'automne de la publication de la décision du jury qui se tiendra plus tard. Alors cette année, ce sera vraisemblablement en février prochain parce que nous avons été amenés à décaler la réunion, une autre réunion qui est celle, notre grande réunion annuelle que nous tenons généralement en novembre dans un des pays du continent africain. Nous devions le faire en novembre à Accra et à cause de la situation Ebola, nous avons été amenés à décaler cette réunion. Donc la décision sera publique en février prochain.
Alors, vous n'avez pas pu remettre ce prix d'excellence ni en 2012 ni en 2013. Donc là, ça va être début 2015. Est-ce que vous êtes optimiste pour cette année ?
Écoutez, vraiment là, je ne peux pas vous dire parce que le jury est indépendant de la Fondation et se réunit de façon complètement indépendante. Ce que je peux dire sur la durée, c'est que finalement, en moyenne, on a eu à peu près, je dirais, un lauréat sur deux en moyenne. Ce qui finalement n'est pas si mal. Comme le dit souvent Mohibrahim, dans le fond, s'il fallait que le jury attribue un prix à un dirigeant occidental, encore une fois, il s'agit d'un prix d'excellence et non pas d'un premier prix, il n'est pas sûr finalement que les résultats sur la durée seraient meilleurs. Ce qui est vrai, c'est que pour la Fondation comme pour le jury, c'est vraiment un prix d'excellence et que l'objectif est bien d'identifier des anciens chefs d'État ou de gouvernement qui sont susceptibles de servir de modèle pour les futures générations de dirigeants du continent. Donc des dirigeants, dans le fond, qui ont fait preuve de leur capacité à transformer leur pays, à la fois sur le plan politique, économique et social, quel que soit dans le fond, ou en fonction plutôt des cartes qui leur avaient été données au départ et de la situation, des situations compliquées généralement qu'ils ont eu à gérer.
Nathalie Delapalme, directeur exécutif de la Fondation Mohibrahim. Au Cameroun, les réfugiés sont de plus en plus nombreux. À l'origine, la crise en République centrafricaine et les exactions de Boko Haram au Nigeria voisin. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Jules Elobo.
Le Cameroun accueille actuellement plus de 100 000 réfugiés, constitués essentiellement des ressortissants des pays voisins qui fuient la guerre civile et des atrocités de toutes sortes. Plus de la moitié de ces réfugiés sont centrafricains et vivent dans la région de l'Est. Dieudonné Iva Dibois, gouverneur de la région de l'Est.
Nos frères centrafricains sont aussi les bienvenus sur notre territoire. C'est pour cela que nous avons eu à héberger jusqu'aujourd'hui certains migrants qui par la suite deviennent réfugiés et d'autres, n'est-ce pas, qui devraient repartir selon leur bon vouloir. Le HCR évolue à nos côtés et en toute synergie, nous pouvons dire que tous les Centrafricains qui ont été, n'est-ce pas, recueillis au niveau de la région de l'Est sont, n'est-ce pas, bien encadrés.
Malgré les efforts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du gouvernement camerounais, ces réfugiés vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Madame Ndeye Ndour, représentante du HCR au Cameroun.
Entre janvier et maintenant, on a reçu plus de 107 000 réfugiés centrafricains. Au début, le rythme était de 10 000 par semaine. Après, on est passé à 6 000. Maintenant, il y a une réduction, on est entre 3 500 et 4 000 par semaine. Et les conditions où les réfugiés arrivaient sur le territoire camerounais étaient telles que il fallait, la première chose à penser, c'est de sauver des vies. Parce que c'est des réfugiés qui arrivent au Cameroun après 3 mois de marche, blessés, avec des blessures de balles, de machettes. On n'épargnait même pas les bébés. Vous avez les anti-balaka et les groupes armés qui éventraient les ventres d'un bébé, la tête d'un enfant. 60% des enfants arrivaient avec un taux de malnutrition très élevé. Les femmes enceintes également. Et ces conditions, la seule chose qu'on avait en tête, c'est de sauver des vies.
En plus des Centrafricains, les Nigérians constituent également une importante communauté de réfugiés vivant au Cameroun. Ces derniers, qui fuient les exactions de la secte Boko Haram, sont surtout installés dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord. Une affluence qui suscite des dispositions particulières. Awa Fonka Auguste, gouverneur du Nord-Ouest.
Il y a certaines mesures spéciales, telles que les motos sont interdites à la frontière de circuler entre 17h et 5h du matin. C'est déjà effectif. Et aussi des mesures pour assurer que tous les camions qui quittent le Nigeria pour aller du côté du Tchad soient dépouillés correctement à la frontière pour voir qu'on ne utilise pas cette voie-là comme couloir de transmission des armes et des munitions. De quoi que sur le terrain, il y a des mesures qui sont vraiment prises. Même pour les expatriés, pour chaque expatrié dans la région de l'extrême nord aujourd'hui, il y a la sécurité qui est autour de ces hommes. Et même pour circuler, il faut être escorté.
À cette masse importante de réfugiés s'ajoutent les Tchadiens, les Rwandais et les Congolais qui constituent également des groupes de réfugiés importants. Yaoundé, Jules Lobo pour La Voix de l'Amérique.
Wishing for a friend, someone to call my own. Who's there for me? I have no bound and can't be sold. Give me a friend who's gonna catch me when I fall. Oh, when I fall.
Belle puce, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Joël Morissin. À la technique, Mireille Dubinsky. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Eva d'Angélique Kidjo, featuring la chanteuse nigériane Asa. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Give me a friend who's gonna catch me when I fall.